Salut tout le monde, bienvenue à une autre édition du podcast. Je suis Marc-André Morel, je suis en direct du studio ici à Montréal. Et aujourd'hui, j'ai un invité vraiment fabuleux à vous présenter. J'ai très hâte, ça fait longtemps que j'ai envie de le présenter à plus de monde possible. C'est quelqu'un de discret, c'est un humaniste naturel. Vous allez voir un parcours quand même exceptionnel et ce n'est pas fini. Je vous présente Richard Kelly. Richard Kelly, salut.
Salut.
Écoute, Richard, parce qu'on se connaît dans la vie pour des raisons professionnelles puis personnelles, ça ne te dérange pas, on se tutoie parce que ça va être plus naturel. C'est comme ça qu'on se parle dans la vie. Écoute, Richard, j'aimerais qu'aujourd'hui, les gens sachent que d'abord, toi, tu es un pompier de formation. Avant ça, tu as été sauveteur. Tu as sauvé des vies en tant que pompier. Je sais que tu as sauvé des vies aussi en tant que sauveteur, mais aussi dans ta vie personnelle. Il y a plein d'occasions qui arrivaient où est-ce que tu étais le seul pouvoir venir en aide à des personnes. Donc déjà, on sent un karma qui semble t'entourer depuis ton adolescence. Et là, aujourd'hui, tu reviens, on est en novembre 2023 et tu reviens d'une mission humanitaire en Ukraine. Alors, on va parler de tout ça, on va parler de ta carrière de pompier, mais aussi de ce que tu as construit pendant ta carrière. On pourrait dire à temps partiel, mais là, on va voir que c'est pas rien du tout. On parle d'une entreprise, d'une agence de voyage, de 140 millions de dollars de revenus à ce jour, avec environ plus ou moins 1000 agents. Tu nous parleras de ça, tu pourras le préciser avec nous. Donc, je trouve ça absolument remarquable pour plein de gens qui ont envie de construire une entreprise en tant qu'entrepreneur, mais qui ne veulent pas non plus se laisser à la rue du jour au lendemain. Alors, il y a plein de belles choses qu'on va pouvoir partager ensemble aujourd'hui, que ça va pouvoir donner au monde. Alors, parle-nous premièrement de ton entreprise là, en tant que président fondateur. Aquaterra, c'est quoi?
Aquaterra, c'est une agence de voyage que j'ai fondée avec un collègue de travail pompier en 2001, exactement, en juillet 2001. C'était sans prétention. On ne pensait jamais, jamais, jamais que c'était pour monter en flèche comme ça. On l'a monté par un pur hasard. Puis ça a décollé vraiment par la suite. Là.
Il y a quelque chose qui me fascine de cette entreprise-là que les gens ne peuvent pas imaginer. C'est ce qui vient de ta personnalité, mais aussi d'une décision, d'une vision que tu avais de bâtir une entreprise à partir d'un modèle d'affaires bien particulier, très contraire à ce qu'on connaît depuis des centaines d'années, c'est-à-dire un modèle collaboratif. Parle-nous de ce modèle d'affaires-là là, qui est basé sur la collaboration où en fait là, la hiérarchie n'existe presque même pas. Là. On va en parler avec la personne intéressée tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce modèle-là d'Aquaterra que tu as conçu, que tu as vu et que tu as décidé de mettre en place?
Mais au début, j'ai beaucoup observé les autres compagnies qui étaient dans le même domaine que nous, les agences de voyage qu'il y avait. Et pour moi, il manquait tout le temps quelque chose. Je ne me retrouvais jamais vraiment bien dans une agence parce qu'avant de partir à l'agence, j'ai fait comme 3 ans environ j'ai travaillé dans une agence pour apprendre. Et je côtoyais beaucoup de propriétaires ou quoi que ce soit, mais il n'y avait rien qui collait à moi. Donc,
Qu'est-ce que tu veux dire qui collait à toi?
Mais la façon de gérer, je trouve qu'elle ne me ressemblait pas, puis je pense que c'est normal pour tout le monde. Et lorsqu'on a parti, Serge et moi, c'était Serge, mon associé du temps, il a pris sa retraite aujourd'hui, je l'ai tout racheté. Ça ne collait pas. Je pense qu'on avait besoin plus de personnes qui avaient des idées. On avait besoin des personnes qui voulaient collaborer avec nous, qu'on pourrait dire, mais qui apportaient des nouvelles idées, des façons de faire dans le voyage. Il manquait beaucoup pour moi, je trouve qu'il y avait beaucoup de choses à faire, dans le fond, encore dans le voyage. Puis encore aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire. Et on a pris la tangente parce que Internet, lorsqu'on est sorti, on a parti l'agence en 2001, venait d'exploser. Là, c'était l'ouverture d'Internet officiellement en 2001. Et là, il y a les agences qui se sont garrochées, excuse le terme, garrochées directement pour faire des forfaits en ligne et vendre des voyages à rabais et tout. Mais ça ne nous connaît pas pour nous. Je trouve qu'un voyage, c'est une grosse dépense. C'est un investissement souvent qu'on fait. Il manquait comment je pourrais dire ça? Il manquait l'aspect humain qui est en train de s'estomper en 2001 environ, 2001, 2002,
Encore plus,
2003.
et justement encore plus avec l'avenue des
Effectivement.
transactions en ligne, où là on était comme plus ou moins en contact avec des robots plus que des agents ou des agents virtuels, mais pas nécessairement le bon vieil agent de voyage qu'on avait depuis toutes les années avant.
Effectivement. Effectivement. Puis à partir de là, on a tissé, nous autres, notre propre web, mais un web humain, que je pourrais dire. C'est qu'on a recruté des agents. Tranquillement, des agents qui étaient à l'interne, des agents qui travaillaient de la maison. On a recruté. Et on leur a donné la philosophie de l'entreprise qu'on prévait, qui était importante pour nous, qui était les valeurs humaines. Vraiment être. Et en plus, on était deux pompiers de métier. C'était les valeurs pompiers, le travail d'équipe. On ne laissait pas un client derrière. Le client était vraiment roi et très, très important pour nous. Il l'est encore aujourd'hui. De fil en aiguille, tranquillement, d'année en année, les agents ont adhéré à ce modèle d'affaires-là, ont adoré. Et les grosses compagnies sur Internet qui vendent des voyages n'ont jamais été vraiment pour nous un compétiteur. Au contraire, ils nous ont même aidés à s'améliorer.
Wow. Écoute, quand tu dis les valeurs, des valeurs humaines, donne-nous des exemples.
Dans quel sens?
De valeurs humaines, le respect, l'écoute, l'empathie, donne-moi des exemples de qu'est-ce que tu veux dire par valeurs humaines là, chez vous, là, chez Aquaterra, ça veut dire quoi?
Dans le sens où, oui, effectivement, le respect est très, très, très important à l'intérieur de l'agence, à l'intérieur de nos. Excuse, tantôt, en entrée de jeu, tu as dit 1 000 conseillers, on est à 800. On n'est pas loin, on va travailler tranquillement pour le 1 000. Mais à l'intérieur de tous ces employés-là, si je peux pour moi, c'est des confrères de travail, c'est pas des employés, c'est le respect qui prévaut. C'est vraiment le respect entre tous les agents. Au début, c'était comme la vieille philosophie, les agents essayaient de peut-être aller chercher un client d'un autre et tout. Et tranquillement, comme je te disais, ils ont adhéré au modèle d'affaires, ils ont respecté un peu chaque agent et ils ont commencé à travailler en équipe. On est parti
Même
de.
des gens qui ne se connaissaient pas, là, ce que les gens faut qu'ils comprennent, là, que moi je sais un peu, mais que toi, peut-être c'est naturel pour toi, c'est que quand on parle de système collaboratif, ce n'est pas d'une équipe, d'une agence, mettons à Sherbrooke ou à Trois-Rivières ou à Montréal ou à Québec. On parle de gens qui sont un peu partout à travers la province ou à travers le pays, puis qui ne se connaissent pas, qui commencent, au lieu de vouloir prendre la peau, du moins la proie, peut-être le lunch de l'autre. Choisissent au lieu de s'entraider. Ça me fascine. Tu as bâti quelque chose
Effectivement.
autour de ça. C'est ça qu'on j'aimerais que tu nous partages en images, là, pour dire en
Ah oui.
exemple presque.
L'entraide est très, très importante et même moi, je ne peux pas être excellent dans tout. Personne à l'intérieur de l'agence peut être un pro dans tout parce que, vous savez, on vend des croisières, on vend des vols d'avion, c'est très, très compliqué les vols. Il y a des forfaits tout inclus, il y a des forfaits à la carte un peu partout à travers le monde. Il y a du Disney, on vend de tout. Et c'est très difficile d'être spécialisé à 100% dans chaque domaine. Or, impossible de le faire. Ce que tu ne retrouves pas sur les agences web. Par contre, avec nos 800 agents, mais il y a des spécialistes dans tout. Que ce soit croisière, que ce soit forfait sud, que ce soit forfait à la carte en Europe, en Asie, en Afrique, Tanzanie pour des safaris. Au lieu de se compétitionner entre nous, mais l'agent qui est expert, mettons, sur les forfaits à la carte en Europe, va aider l'agent qui est moins expert avec son client. Donc, il va même l'assister
C'est
avec le
incroyable.
client.
Même s'ils ne se connaissent pas, même s'ils ne sont pas de la même ville, même s'ils sont à quelque
Effectivement.
part, sont là pour gagner leur vie.
Effectivement, parce que lui qui va l'aider pour le forfait qu'on a parlé, mais il va se faire aider d'un autre côté pour les croisières ou quoi que ce soit. Forfait d'entraide, travail d'équipe.
Quelqu'un qui arrive pour la première fois, là, qui a toujours vécu dans des grandes organisations, puis qui décide, bon, peu importe, dans le voyage ou non, décide de dire, bon, ça y est, là, moi, je vais aller avec Aquaterra, je connais quelqu'un qui fait ça depuis quelques années. Là, ils arrivent, là, puis sont conditionnés, là, comme moi, je l'ai été, là, pendant toute ma vie, avec une formule hiérarchique et puis, bon, la concurrence entre représentants des ventes, puis entre même, peu importe, employés dans une entreprise. Et là, tout d'un coup, j'arrive d'une place à comment ça se passe, le choc de chaque personne qui n'est pas habituée à ça, qui n'a pas connu ça. Comment ça se passe d'arriver et dire, OK, là, ta minute, là, ça ne marche pas de même ici, là, chez Aquaterra, c'est que on est là comme une grande, grande famille, puis on est là pour donner une partie de nous, de nos connaissances, de notre savoir-faire à d'autres de façon gratuite, hein, on se comprend. Et puis,
Effectivement.
je lance ça dans l'univers, comme on dit, et puis j'imagine qu'éventuellement, ça va revenir. Mais quelqu'un qui est rendu là, OK, mais quelqu'un qui n'est pas là, comment ça se passe le premier choc là, des premières semaines, des premiers mois pour un nouvel agent, une nouvelle agente qui rentre puis qui wow, attends une minute, là, c'est un autre, une autre bébite, ça, ici, là.
Effectivement, mais je peux dire qu'il s'adapte assez rapidement. Au début, c'est vraiment comme un autre monde. Excuse mes chiens en arrière.
Alors, une petite pause canine qui était nécessaire, on continue. Alors, tu nous disais que quand un nouvel agent arrive, qui a été conditionné d'une façon bon, plus hiérarchique dans son travail, arrive devant un modèle où il y a des gens qui ne se connaissent pas, qui s'entraident, c'est façon gratuite, puis on sait pas qu'est-ce qui va nous. Qu'est-ce que la vie va, si elle va vraiment nous le retourner, mais ça semble être pas du tout une inquiétude là, chez vous. Mais tu nous donnais l'exemple de quelqu'un qui rentre au début là, puis qui s'adapte là quand même assez facilement, tu disais.
Oui, il s'adapte assez facilement. Puis il découvre le nouveau modèle qui est comme un peu particulier, qui est vraiment basé sur eux, sur les agents qu'on appelle externes, même s'ils sont à l'interne. C'est que même s'ils partent en voyage ou quoi que ce soit, l'agent, mais toute la responsabilité devient des clients de ces agents-là, devient la responsabilité des agents à l'interne. Ça veut dire que même si l'agent est en vacances, il est à l'autre bout du monde, on va servir son client comme si c'était l'agent lui-même qu'il servait pour
OK.
ensuite.
Juste pour être sûr qu'on se comprenne, là, tu nous parles d'agents internes, d'agents externes, juste pour qu'on comprenne, là, les agents externes, ce sont les agents indépendants qui travaillent de chez eux, qui travaillent sur leur dossier, leur clientèle. S'ils s'absentent pour maladie, pour peu importe, les agents internes, c'est-à-dire ceux qui sont employés par toi, là, par ton organisation, par Aquaterra, c'est eux qui prennent le relais, c'est ça que tu veux dire.
Effectivement, mais on ne fait pas de distinction vraiment entre un agent chez nous interne ou
C'est
externe.
toi qui le dis, agent
Oui,
externe,
mais
agent interne.
c'était juste
Je veux
pour
juste être
vous
certain
mettre
que
en
tu es d'accord.
situation.
J'ai compris. On comprend. Oh, c'est bon.
Donc, on
Toujours le même.
s'occupe des clients.
Le modèle continue.
Le modèle continue. L'agent peut être absent 1 mois, 2 mois. Les ventes vont s'accumuler de son côté. Il n'y aura aucune différence. À son retour, on va juste faire un suivi avec le client.
C'est bon.
Oui.
Super. Qu'est-ce qui est à venir pour cette entreprise-là avec le modèle là, qu'on connaît mieux maintenant, là.
Tout est à venir encore dans cette agence-là. C'est incroyable parce qu'avec le modèle qu'on a, comme je te disais d'entrée de jeu, c'est les gens apportent leurs idées et un peu, on va au bout de chaque idée. Lorsqu'on trouve qu'une idée est excellente, on
Oui.
pose l'idée. Donc, c'est illimité. On a tellement de beaux projets qui s'en viennent. C'est sûr qu'on veut augmenter encore le nombre d'agents qu'on a à l'interne et à l'externe. Si on peut le dire comme ça, le nombre de places fixes, parce que présentement, on a 10 agences à travers le Québec. On veut l'augmenter, effectivement. On a plein de beaux projets qui
Comme
s'en viennent.
exemple, par exemple, il y en a-t-il que tu peux nous dévoiler ou c'est.
Mais c'est qu'on travaille très fort sur les sites web pour qu'ils soient comment je pourrais dire, beaucoup plus informatifs. Les gens viennent sur le site, mais ils ont un agent qui va l'accompagner quand même sur le site. S'ils décident de réserver sur le site, tout ça est développé. Un gros forum de discussion qui s'en vient sur le
OK.
voyage, qui est déjà tout prêt, qu'on attend
Donc, de la valeur ajoutée, finalement, là, qui est au menu pour les clients et clients potentiels. Puis, dans le fond, quand tu me dis...
Pour les clients et pour les agents, surtout aussi,
Ah oui,
parce
OK.
qu'on développe la clientèle de
Ah
l'agent aussi, avec la
oui.
géolocalisation.
Vous abandonnez pas vos agents là, comme ça qui sont à la
Ah non,
maison.
non, 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 non.
Vous êtes
On
toujours...
travaille,
Oui, je
tout est
comprends.
basé à travers eux. Le forum de discussion qui s'en vient va géolocaliser les agents. Donc, c'est un client qui est à Rouyn-Noranda, qui cherche un Disney, mais ça va lui popper l'agent qui est le plus près et spécialisé Disney, puis qui
OK.
vont commencer le dialogue ensemble pour ensuite terminer.
On a évoqué tout à l'heure dans l'intro que tout ça, toute cette belle entreprise-là, cette belle communauté-là, qui rend service à des milliers de personnes chaque semaine, on a évoqué que tu étais pompier. Tu étais pompier. Mais là, moi, je vais jouer l'avocat du diable, puis je vais dire, oui, mais les pompiers, de toute façon, ils font rien. J'ai entendu ça, moi. Hein? Toi, tu l'as entendu aussi.
Ah oui.
Donc, qu'est-ce que tu réponds à ça, là, dire, OK, j'avais soi-disant du temps de libre, et puis c'était comme ordinaire, normal, facile de bâtir une entreprise de 140 millions de chiffre d'affaires pendant que, à l'époque, il faut comprendre que quand tu as commencé, il faut qu'on se mette dans l'esprit qu'il y avait seulement les fameux téléphones flip, c'est-à-dire pas du tout d'Internet sur un téléphone, il n'y avait même pas d'écran couleur ou quoi que ce soit, c'était simplement un téléphone cellulaire pour faire des appels. Et je pense peut-être commencer à recevoir des messages textes, mais c'était très rudimentaire. Alors, il faut comprendre que c'était le portrait là, à l'époque. Mais qu'est-ce que tu réponds aux gens qui sont malins puis qui disent que, dans le fond, un pompier, ça ne faisait rien, il aurait bien pu faire ce qu'il voulait d'autre pendant ce temps-là?
Je les invite à venir faire une journée avec moi ou peut-être une semaine avec moi lorsque j'étais pompier, parce que là, j'ai pris ma retraite dernièrement, mais je les inviterai à venir faire un petit stage en caserne pour ça. C'est la vieille mentalité.
Mais
Pour moi, on
oui.
a toujours été en mouvement, on a toujours fait de quoi. J'étais pompier à la ville de Montréal. Dans des secteurs qui étaient quand même assez chauds. J'ai fait une vingtaine d'années dans la ville Saint-Michel où est-ce que ça brassait beaucoup, beaucoup, gang de rue et tout. Puis ensuite, j'ai bifurqué j'ai fait la pointe Saint-Charles également qui était très, très, très chaude dans le temps. Et j'ai terminé ma carrière quand même avec beaucoup d'années d'expérience dans le centre-ville Plateau Mont-Royal à la caserne 16, qui est environ un appel à l'heure.
Ah oui.
Pour rien faire, les tables de poule, là, quand je suis rentré, il y en avait peut-être. Mais j'ai rarement vu les pompiers rien faire. C'est même dans les zones qu'on ne fait rien, mettons qu'il n'y a pas d'appel, mais c'est de la formation. On n'arrête pas, on va se pratiquer, on fait de la prévention. Non, c'était tout le temps quelque chose à faire.
Mais je suis content que tu nous fasses le portrait de ça, là, spécifiquement dans quel quartier tu étais, quartier au pluriel, là, parce que effectivement, moi, une fois où on avait une rencontre, on s'était donné rendez-vous à ta caserne de, en tout cas, rue Jarry ou quelque chose comme ça, là, Saint-Michel, puis là, tu étais supposé d'être libre, puis je suis arrivé, tu n'étais pas là, tu étais sur un appel, puis j'ai même pas eu le temps de te parler 10 minutes, que tout de suite, ça sonnait, puis il fallait que tu ressortes, il fallait que tu repartes. Donc, moi, j'ai été témoin même de comment que ça bouillonnait à cet endroit-là. Donc, ça, y a ça, mais moi, ce que j'aimerais rajouter à ceux qui ont des mauvaises langues, puis qui pensent que un pompier, ou peu importe le métier que tu fais, que tu as un salaire qui rentre, puis que tu as tellement disons que tu avais 8 heures de libre par jour, on va dire. On va exagérer, là, toutes tes heures, 8 sur 8, 100% de ton temps, tu étais payé, on va dire, à rien faire. Quiconque est payé à rien faire. Moi, je connais des gens qui ont beaucoup de temps, qui ne font rien de toute façon avec leur temps. Et ça ne veut pas dire que tu te lances à bâtir, créer une entreprise, qu'elle va réussir. Parce que je le sais, moi, je suis un entrepreneur, j'en ai essayé des trucs, puis il y a des trucs, beaucoup de choses qui ont pas été un succès, surtout pas un succès comme Aquaterra l'est aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir aussi cette dimension-là, c'est que, OK, on oublie le fait bon pied ou peu importe, qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu de temps, moyennement de temps, beaucoup de temps, c'est-à-dire un peu de temps, mais malgré tout, ils font rien de leur temps de toute façon. Donc, ce n'est pas parce que tu avais du temps que c'est automatique que tu peux avoir une entreprise comme ça, de 10 agences avec 800 agents. Et puis, alors moi, c'est sûr que ça me pique un peu, mais faut regarder, dans le fond, peu importe ce que. Oui, c'est vrai que tu avais des appels l'un après l'autre, mais en plus, tu as fait ça, comme on dit, les soirs puis les fins de semaine, comme on dit. Donc, c'est
Oh,
vraiment
tellement.
extraordinaire. Puis, ce que j'aimerais que tu nous parles là-dessus, c'est que j'entends beaucoup de gens autour de moi qui ont le rêve, qui commencent à avoir là, la cinquantaine, puis qui se rendent compte que finalement, ça va vite les choses, OK, les enfants grandissent, etc. Donc là, ce serait le temps peut-être de se lancer à réaliser un rêve. Mais un rêve, souvent, c'est d'être entrepreneur, d'être blogueur, d'être écrivain, d'être auteur, d'être conférencier. Peu importe le rêve qu'on a d'avoir sa petite entreprise, d'aller aux îles de la Madeleine, s'ouvrir un stand de patates frites, peu importe. Il y a beaucoup de gens qui ont peur par insécurité, de laisser l'emploi, évidemment, là, qui permet de payer l'hypothèque. Alors, je trouve que c'est un exemple idéal, ton cas à toi, que tu as fait ça justement dans un cadre comme ça, jongler les deux, avec quatre enfants, on ne l'a pas dit, mais toi, tu as eu quatre enfants,
Il y en
et
a,
puis, tu es
je vais
très
t'arrêter
proche.
tout de suite, Marc-André, c'est trois. Il y en a peut-être un que je ne trouve pas encore, mais non, j'en ai trois.
J'avais
Oui.
dans la tête quatre parce que c'est vrai que je sais que chez vous, vous êtes quatre, t'es le petit dernier, mais je sais que c'est peut-être ça qui m'a induit en erreur.
Effectivement.
Merci de la correction. Effectivement, je n'ai pas inventé un quatrième. T'en as eu trois, mais trois enfants, t'es proche. Là, je vais juste arrêter de parler pour te laisser le micro pour nous raconter un peu, pour nous donner peut-être quelques conseils à ceux qui aimeraient peut-être effectivement sans laisser leur emploi. Du jour au lendemain, qu'est-ce que tu nous recommandes, quelqu'un qui veut créer quelque chose, là, que ce soit quelque chose d'artistique ou une entreprise ou d'écrire un livre ou quoi que ce soit, mais de le faire à même son horaire de travail comme employé en ce moment-là? Qu'est-ce que tu conseilles?
Mais parce que je ne l'ai pas fait toute seule, hein, je te dirais. Je l'ai fait entouré de bonnes personnes alentour de moi. C'est, tu sais, je ne le dirai jamais assez. Je n'aurais jamais cette agence-là. Je n'aurais jamais parti cette compagnie-là si ma femme d'antan, mais qui est rendue ma chum aujourd'hui, ne m'avait pas épaulé avec les enfants ou quoi que ce soit. Tu sais, parce que je faisais quand même les heures. Je faisais un 42 heures semaine à la caserne. Je revenais le soir, il y avait les trois enfants. Elle me donnait beaucoup de. Là, je descendais dans le sous-sol pour monter les prémices de l'agence et tout. Mais comme je te dis, j'avais des bonnes personnes. Et encore aujourd'hui, je suis entouré de bonnes personnes. Et c'est
Mettons
facile.
que je t'entourais des bonnes personnes, ça doit prendre plus que des bonnes personnes. C'est du travail, c'est des heures, c'est de la discipline, c'est de l'organisation, non?
Oui, tellement. Mais ce que je conseillerais, parce que je le fais encore, j'ai beaucoup d'agents qui viennent me voir, qui veulent partir leur propre agence, et j'en ai plein comme ça qui ont explosé chez nous. C'est d'avoir la passion, vraiment, et d'avoir un objectif surtout, de savoir où est-ce qu'on s'en va, d'un bon plan d'affaires. Pas obligé de quitter son emploi tout de suite, immédiatement. On peut monter les prémices, les bases tranquillement de la compagnie, que ce soit dans n'importe quel domaine. Et tranquillement, moi je dirais, mais sûrement suivre le plan d'affaires que vous avez fait. Ou si, mais pas, il n'y a pas de plan d'affaires, au minimum un plan de match à suivre.
Mais ça,
Puis
c'était.
jamais en déroger, je te dirais, jamais, mais jamais en déroger. L'objectif est là, le suivre, l'objectif, et y aller vers.
Mais
Parce
si
qu'on
on entend
s'appelle là.
ça beaucoup, je m'excuse, là, je vais
Oui.
t'interrompre dessus parce que c'est quand même des choses qu'on entend souvent par rapport à n'importe quel projet qu'on veut, que ce soit d'affaires ou autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de le faire à même un emploi à temps plein. Moi, c'est ça qui m'étonne, qui me souffle, comme disent les Français. Je suis absolument estomaqué du fait que tu as réussi à faire ça à tes heures, à toi. Donc, comment tu as géré ta propre énergie? Parce que ça prend de l'énergie, c'est fatigant de faire le travail qu'on fait. Donc, comment trouver l'énergie pour mettre 1 heure, 2 heures, 3 heures sur ça? Tu le faisais après le travail que tu avais fait durant la journée, des fois même tu travaillais nuit, fait comment tu t'arrangeais? Tu faisais ça le matin en te levant. C'est les fins de semaine ou les journées de congé que tu avais, c'est là que ça se passait. Puis les personnes que tu parles, qui t'ont aidé, tu les appelais, tu étais en contact. Comment? Sans entrer dans les détails, je suis curieux de savoir comment on fait ça. On bâtit quelque chose, on lance quelque chose à même un emploi à temps plein.
Mais comme je te disais tantôt, c'est la passion, un peu, beaucoup. Et on se fait rattraper. Je pourrais t'expliquer qu'on fait une vente, on fait deux ventes dans le voyage. Là, ça peut être dans n'importe quoi. Les clients nous réfèrent, nous réfèrent, nous réfèrent. Puis, à un moment donné, il faut pouvoir gérer ce flot-là.
C'est ça.
Puis comme je te disais en entrée de jeu, j'avais un associé qui était sur une équipe complètement différente avec moi, pompier. Donc, on pouvait se s'aider pendant que je travaillais de jour. Lui, il était à la jambe.
Alterner, oui.
On s'aidait beaucoup, 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 beaucoup. Effectivement.
Il fallait le faire. Il fallait faire la job pareil. C'est ça qui
Oui,
est
oui.
fascinant. Fait que c'est, si tu ne veux pas le faire pendant que tu étais dans tes heures de travail à la caserne, tu as fait ça à tes heures perdues, c'est-à-dire perdues, il n'y a pas d'heures perdues, mais je veux dire quand tu étais à la maison. Donc, finalement, je
Mais il
pense que
faudrait
je
que
n'aurai
tu
jamais la
ajoutes.
réponse à ça, parce que ça, mais on va y revenir parce que je sais que ça va allumer beaucoup de lumière chez plusieurs personnes. Je pense qu'il n'y a personne qui se doute à quel point c'est possible de bâtir, pas obligé d'avoir une agence à 140 millions au bout de 20 ans, là, pas ça du tout, là, mais au moins sa petite activité, que ce soit là, d'infopreneur là, sur Internet ou d'auteur ou quoi que ce soit, de faire quelque chose, d'avoir sa petite boutique sur Etsy ou quoi que ce soit, de le faire à même un emploi à temps plein de 42 heures par semaine ou moins. Donc, moi là-dessus, je suis absolument admiratif, comme tu ne peux pas t'imaginer, parce que quand j'ai commencé, j'étais insécure. Donc, je ne sais pas comment j'ai fait pour être capable de me lancer dans le vide avec moi-même, seulement moi-même comme source de revenus. J'y suis arrivé, mais de le faire comme tu le fais, j'aurais aimé ça, peut-être essayer comme ça, parce que ça m'aurait permis de, en tout cas, mieux dormir au début, ça
Ah,
c'est certain.
j'imagine. Mais
Écoute.
le
Oui.
chiffre d'affaires, comme tu mentionnais, il n'est pas important pour moi, puis il ne le sera jamais. L'important, c'est vraiment de continuer à exercer une passion, puis de s'amuser surtout. Faut toujours s'amuser. Il faut se respecter là-dedans également. Il ne faut pas changer lorsqu'on part en affaires. Il faut garder les mêmes valeurs. Puis je dis tout le temps qu'une compagnie est un amplificateur de valeurs, de comportements. C'est très important de ne pas les changer parce que vous allez voir, si vous restez vous-même, vous êtes passionné, puis vous le faites pour les bonnes raisons, le succès va venir, c'est certain. C'est
OK,
certain.
c'est bien dit, ça, un amplificateur de valeur. Écoute, parlant de ça, il y a une chose que tu m'as déjà dit une fois, tu m'as dit, moi, je n'ai pas pris une décision en 25 ans pour cette entreprise-là. Que tu es du type de leader qui donne toute la place à l'équipe. Puis comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment d'employé ou patron là-dedans, on est tous des coéquipiers, j'adore ça. Mais en plus du fait que, comme tu dis, tu n'as jamais pris de décision, parle-nous de ça un peu.
J'en ai pris des décisions en début de carrière, mais je me suis aperçu que les gens que tu engages, les gens qui viennent travailler avec toi, mais ils ont une plus-value tellement importante qu'on néglige souvent en affaires, c'est les idées, c'est la pensée. Donc, je préconise tout le temps, lorsqu'un problème survient, puis on a plusieurs départements dans l'agence ou dans les agents. Mais ils viennent me voir avec le problème, mais surtout avec la solution. Surtout. Puis s'ils ne l'ont pas, on va la travailler ensemble, la solution. Donc, après ça, bien, la décision va se faire d'elle-même.
Mais pour ceux qui connaissent les tests psychométriques, là, surtout les styles de personnalité ou les couleurs de personnalité, juste faire une petite parenthèse que toi, tu es un des rares leaders d'entreprise ou autre, là, qui est dans la catégorie des verts, c'est-à-dire introverti, axé vers les gens. Donc, ce qui veut dire que, contrairement à ton opposé, qui est plus souvent reconnu comme étant celui ou celle qui est comme chef d'entreprise, c'est-à-dire les rouges qui sont plus axés vers les résultats, etc. Mais d'avoir un vert ou une verte comme chef d'entreprise, je trouve ça extraordinaire, surtout dans les temps que l'on vit en ce moment où on est en pénurie de main-d'œuvre ou qu'on est carrément dissocié un de l'autre. C'est la décadence de l'individu en ce moment où on est très individualiste. Le télétravail, ça n'aide pas du tout. Alors que toi, tu es quelqu'un d'empathique, d'aimable, comme on appelle dans le jargon des couleurs. Et l'aimable, tu es celui qui va avoir la compassion, qui va être la personne d'harmonie, de consensus. Donc, c'est la motivation des verts, c'est le consensus. Alors, pour ceux qui connaissent un peu les styles de personnalité, je voulais juste vous dire, Richard Kelly, c'est un vert qui est 100% vert, qui est à sa place. Je t'ai jamais entendu parler dans le dos de quelqu'un, de parler contre quoi que ce soit, de te plaindre. C'est incroyable. C'est toujours pourquoi pas, pourquoi pas, oui, pourquoi pas. À chaque fois que je t'expose un problème ou une situation, mais non, ça ne veut pas dire que ça va être comme ça. Il y a tout le temps une manière de le faire. Donc, c'est extraordinaire. C'est comme si tu ne peux pas avoir de nœud coincé. Quand tu es en présence de Richard Kelly. Fait que c'est pour ça que je voulais juste faire la parenthèse parce que j'admire ça de toi, ton caractère, puis tout ce que tu as créé dans ta vie personnelle et professionnelle ressemble à ça. Donc, je te félicite, je t'admire énormément pour tout ça. Tu es un modèle 2.0 là, dans la période où on est en train de parler d'intelligence artificielle, de savoir qu'il y a des gens de cœur comme toi, c'est extraordinaire. Fait que c'est pour ça que j'aimerais ça qu'on termine avec ton dernier épisode de vie où tu es allé. C'est pas parce que, écoute, c'est pas parce que personne t'a forcé ou t'a demandé. Tu es allé de plein gré en Ukraine dans une mission humanitaire qui a duré, je pense, 3 semaines, c'est ça?
Environ 3 semaines, un petit peu moins, ouais.
Parle-nous de ça. Ça a commencé où? C'était qui était là-dedans? Qui organisait ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Parle-nous de cette mission-là, là, où tu es allé en Ukraine il n'y a pas si longtemps, là, t'arrives à peine. Là.
Mais comme tu sais, c'est très important pour moi, c'est dans mes valeurs, c'est dans mes gènes d'aider les gens. J'ai un ami, un ancien collègue aussi pompier, qui l'est encore aujourd'hui, qui revenait de l'Ukraine. Via un organisme international qui s'appelle Siobhan Trust Hero. Et il a fait une publication une journée sur son Facebook. J'étais à sa galerie en train de prendre mon café avec mes chiens. Puis je vois la publication. Puis 5 minutes après, je lui avais écrit. 10 minutes après, le billet d'avion est acheté. Donc le voyage était prévu. Ouais.
Et puis, qu'est-ce que vous aviez comme mission?
Comme mission, on avait deux. On a la ville de Blainville qui nous a fourni environ 15 défibrillateurs cardiaques et une multitude de trousses de premiers soins. Tu aurais dû nous voir voyager avec des valises. C'est incroyable ce qu'on avait. On a monté, on est allé pour amener tout ce stock-là en Ukraine, le répartir aux premiers répondants qui sont sur les lignes de front. Ils ont un grave manquement de défibrillateurs cardiaques là-bas et ou de trousses de premiers soins, nommez-les, de garrots, quoi que ce soit. Donc, on a tout apporté ça là-bas, à nos frais, via nos
À
poches
vos
communes.
frais. Ah, c'est ça, hein? Fait que
Oui.
c'était tout à vos frais. Combien vous étiez?
On était trois pompiers, mais trois. Ben, c'était des anciens collègues et trois autres personnes que je ne connaissais pas du Québec. Ça, c'était la délégation Québec, entre guillemets, qui montait.
OK, fait que vous étiez six.
Six
Puis là,
Québécois.
vous aviez quoi comme deuxième mission? Parce que tu as dit qu'il y en avait deux, tu en as parlé.
Oui. La deuxième mission, puis c'était la plus importante pour moi, c'était apporter de l'espoir aux gens là-bas. C'est des sourires, créer des sourires.
Et vous avez fait ça avec de la,
Pardon?
et vous avez fait ça, les sourires, vous avez créé des sourires avec
De l'amour, tu veux dire?
de la pizza.
Ouais, mais c'est pas fini. Ouais, je vais y arriver. Bon, on l'a fait à grands coups d'amour là-bas parce que vraiment, ça a été spécial. C'était un voyage assez long et ardu. Si, mettons, je t'explique rapidement mon voyage. On est parti de Montréal. On est allé juste via Air Canada. On est allé jusqu'à Londres. De Londres, on a pris, c'est un vol de 6 heures environ, on a pris un avion pour aller jusqu'en Pologne, à Varsovie, la capitale. De là, on a pris nos petits avions pour se rapprocher des lignes ukrainiennes, la frontière ukrainienne. Puis après ça, on l'a traversé à pied. C'était vraiment spécial. C'était comme si.
Ah oui, je savais pas ça.
Ah oh, oui, comme si on était
Des migrants.
comme dans les films en Europe de
Les
l'Ouest, des années
réfugiés.
70,
Oui.
les barbelés partout, les gardes de sécurité. Fait que nous, avec nos valises, les DEA, les trousses de premiers soins, on s'en allait. Puis
Quoi
c'était
des
de nous qu'on passait ça.
C'est quoi des DA?
Des défibrillateurs cardiaques.
Ah.
Donc, on avait nos valises, tout, on a passé la frontière qui était quand même ardue, jusqu'à temps qu'on dise le mot volunteer, des volontaires humanitaires. À ce moment-là, les portes se sont ouvertes pratiquement par magie. On est rentré en Ukraine. Un taxi nous attendait pour nous amener à la gare, qui est environ une autre heure de train, de voiture, pour arriver à la gare de train, parce que là-bas, les avions ne volent pas. Donc, il faut se déplacer par train ou par voiture. Puis c'est très grand, l'Ukraine. Ensuite, on a embarqué dans le train. Mais encore là, c'était une gare des années 70, très froid, vraiment comme on voit dans les films. Et là, on s'embarquait, puis je ne savais pas dans quoi vraiment je m'embarquais, 30 heures de train environ. Bien, en classe, il y a la première, il y a la deuxième, il y a la troisième. Je pense qu'on était dans la quatrième.
Quatrième classe, ouais.
Ben, je
Ouais.
pense que ça manquait de classe. Mais
Ah.
c'était un wagon, vraiment, là. C'est-à-dire, j'ai comme resté figé dans le temps. J'ai fait, oh, puis là, la madame qui surveille le wagon, la babouchka qu'on les appelle,
Hein?
elle nous engueulait en ukrainien, on ne comprenait rien, il fallait prendre nos places. Puis l'épopée est partie, là, 30 heures de train qui est long, 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 couché sur des comme des civières à peine.
Et
C'était
là,
quand
vous êtes
même spécial.
arrivé dans une première ville
Oui.
pour incarner la mission
Oui.
qui était le sens, en fait, la raison d'être de ce voyage-là. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Vraiment, lorsqu'on est descendu du train, la première minute, les sirènes se sont mises à crier partout en ville. Ça annonçait les possibilités d'attaque russe sur la ville. La ville, c'est Zaporijia qu'on était. Donc, tout de suite, les militaires et tout nous ont amenés dans un tunnel. Il y a d'autres qui appellent ça des abris anti-aériens au cas où. On a passé là environ une demi-heure. C'était ma première demi-heure vraiment à sortir en Ukraine. C'était spécial. Ensuite, un taxi nous a pris puis nous a emmenés directement où est-ce que l'organisme international œuvrait. Fait qu'on est allé, rejoindre toute la gang. C'est du monde d'un peu partout à travers la planète qui viennent aider. Donc, le message qu'il donne, l'organisme, c'est que la planète au complet est en arrêt de vous, l'Ukraine. On est là pour vous aider.
Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez rencontré les premiers citoyens ukrainiens?
C'est très spécial. C'est parce qu'on se promène avec, en anglais, on dit les food trucks, les camions de nourriture. On a plusieurs food trucks, puis on sert de la fameuse pizza qui est la meilleure au monde. Elle se trouve en Ukraine, pas parce que je la faisais, mais elle est vraiment spéciale. Donc, on arrive dans les petites villes ukrainiennes qui viennent d'être libérées par l'armée ukrainienne, qui ont repoussé l'armée russe. Ils ont repris des villes, à peine un an au moins, étaient désertes. C'était théâtre de la guerre et tout.
OK, les gens commençaient à revenir,
Oui,
puis
les gens
là.
reviennent tranquillement. Puis là, on est environ à peu près à 30 km, 40, 20 km, dépendant où est-ce qu'on va. Des fois, beaucoup moins de la frontière russe ou des affrontements.
Ah boy! Et là,
Donc,
vous étiez toujours les mêmes 6 personnes, puis vous conduisiez un camion, je pense, hein? Vous aviez le
oui, on
camion.
était un groupe de 6 Québécois qui allaient rejoindre 6, 7 autres personnes de l'international. Il y avait beaucoup d'Anglais ou quoi que ce soit.
OK.
Il y avait d'autres qui créaient. On était environ une quinzaine à conduire ces camions-là, à amener, à aller chercher dans les entrepôts parce qu'il y a des organismes qui fournissent la pizza. Et on avait un camion réfrigéré. Et on part en expédition dans ces villes-là où est-ce qu'ils font les demandes. Puis c'est très spécial voir lorsqu'on arrive dans ces villes-là. Il y a très peu de jeunes hommes, sont tous à la guerre. Donc, c'est des femmes, des enfants, des personnes âgées, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu d'âme amicale, si on peut dire.
Moi, j'ai vu des photos. J'ai vu des photos, tes photos sur Facebook, là. Je vais mettre le lien dans le post YouTube, là, mais dans la description de l'entrevue. Le lien pour aller à ta page, à ton profil Facebook, ça vaut la peine de lire les textes qui sont merveilleux, qui sont extrêmement professionnels. On dirait un journaliste qui écrit, mais surtout voir les photos. Moi, je vois encore les visages des enfants. Tu sens que ça sourit pas facilement. Tu as
Non.
beau vouloir créer des sourires, les sourires sont encore un petit peu loin, là. Ils vont revenir tranquillement, ils vont émerger, là. Mais au moins, vous étiez là avec la pizza, l'amour, puis vos sourires à vous autres, là. Mais ça vaut la peine de voir ces photos-là, puis tu en as mis de façon abondante, donc super. On va en mettre dans l'entrevue, mais il reste que... Oui, continue. Donne-nous le portrait là, de qu'est-ce qui se passait quand vous étiez là sur place à faire cuire des pizzas en plein milieu de la rue, en plein milieu du parc, machin truc, là. Puis là, tu vois des gens qui s'approchent, là.
Ouais, la journée typique commençait vers les 11 h le matin pour eux, mais nous, on partait vraiment plus tôt parce que des fois, on avait plusieurs kilomètres à faire. On s'installait, on mettait les camions un peu en U et on mettait une grande table où est-ce qu'il y avait l'espace ouvert. Puis les citoyens nous attendaient déjà. C'était des centaines, des fois des milliers de
Il savait que vous étiez pour être
Oui,
là. OK.
ils sont avisés parce que c'est
Ah
souvent la
oui.
mère du village qui va demander
Ah oui.
est-ce que vous pouvez venir? T'sais. Fait que ça, on arrivait et on part les fours, on a 12 fours dans les camions. Une équipe ouvre les pizzas. Moi, j'étais souvent au four pour les faire cuire. On met un gros haut-parleur, on met de la musique pour les faire danser. Et là, ça part. Là.
Ah
C'est vraiment
oui.
là.
OK. Ça, c'est
Ah oui,
sûr,
je
les
me suis
photos,
jamais
c'est...
déhanché autant. Donc, on voyait les gens dans la foule, souvent, c'est vrai, c'est un peuple qui a l'air froid, très froid. Mais un coup qu'on a brisé la glace, et c'est là le gros défi, notre mission était là, briser la glace pour aller chercher les sourires assez, de les faire participer. Souvent même, on voyait des jeunes enfants, je te dirais 10, 11, 12 ans, tristes, 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 froids. Puis on les lâchait pas, j'allais danser, mes coéquipiers allaient danser à côté d'eux, il y en a un qui était excellent pour les motiver. Puis à un moment donné, on voyait un petit semblant de sourire, et là on voyait la faille. Là, moi je rentrais dedans, c'est sûr, j'arrivais avec mes pizzas, je faisais des gaffes, ça y faisait rire. Parce qu'il faut dire on pouvait servir entre 4 et 6 000 pizzas par jour, là. Des fois moins, des fois plus, on faisait plusieurs places des fois par jour également. Oui, on en servait. C'était pas de tout repos. Donc,
C'est que, mais ça, on s'en fout pas mal. Là, si vous étiez fatigué, là, on veut savoir à
c'est
quel
pas
point
grave.
ça peut faire un impact. Tu comprends ce que je veux dire? Vous autres, là, c'est pas important. Là, vous êtes en mission, vous êtes là pour aider, puis après ça, vous revenez dans votre doudou à maison. Là, on se comprend.
Effectivement.
Mais il reste que, c'est correct, mais il reste que ça fait beaucoup d'amour, effectivement. Là,
Ah
si...
oui, lorsque je voyais la faille, souvent, même mes coéquipiers, on allait chercher cet enfant-là, puis on lui demandait de nous aider pour la journée ou pour quelques heures dans la journée. Incroyable. C'est un peuple qui est tellement résilient, qui est tellement fort, là, il venait nous aider. À la fin, il ne nous lâchait plus. C'était triste de s'en aller. On avait un peu de peine lorsqu'on quittait. C'était les fours.
Vous aviez créé une relation là.
Oui, absolument.
En peu de temps, là, déjà là, il y a un autre deuil pour eux autres. C'est pas
Oui.
le fun, mais au moins ça a apporté quelque chose. Mais
Oui.
moi, j'aimerais ça que tu nous dises en terminant, j'aimerais ça, encore une fois, là, ceux qui veulent aller en savoir un peu plus là, sur tout le parcours qui est très bien documenté par tes textes qui sont merveilleux, c'est d'aller sur ton profil Facebook. Qu'est-ce que d'après toi, le monde en ce moment là, a le plus besoin? Parce que venant d'une personne humaniste comme toi, qui fait pas juste poster des citations sur Facebook puis prétendre être quelqu'un qui aime le monde, puis tout ça, tu l'as montré toute ta vie, comment tu étais au service de l'autre. Qu'est-ce que le monde a besoin en ce moment? Le monde avec un grand M. Hein?
Plus, je te dirais, d'amour. Moins de frontières, si je peux t'enlever quelque chose, et moins de gens comme
Oui,
des dictateurs qui
on comprend.
peuvent amener un peuple à créer autant de dommages, c'est tellement triste. Mais c'est de l'amour, c'est de l'espoir qu'ils ont besoin.
On a besoin, on a
Puis
besoin.
l'Ukraine, je peux dire, ça fait aider beaucoup par plusieurs pays dans le monde.
Mais au-delà de l'Ukraine, je parle planétairement parlant, là, le Québec, le Canada, l'Amérique du Nord, le monde occidental, le monde, en
La
gros, on a
tolérance.
besoin de quoi en ce moment, dans
La
plus.
tolérance. C'est triste
Ouais.
souvent lire les médias sociaux pour des petites choses. Les gens montent aux barricades. Il y a des choses beaucoup pires dans la vie que de voir un cycliste rouler dans la rue et non sa piste cyclable, ou je te donne un exemple.
Oui, je comprends. C'est un
Mais
très bon exemple. Oui.
de compassion, beaucoup de compassion, d'humanisme,
La compassion.
arrêter de juger les autres.
Oui, exact.
Oui.
Ah oui, non. Écoute, il faut revenir à la base. C'est certain que on ne rentrera pas sur les pistes de solution, puis
L'entraide.
l'âge du sac tout de suite, mais aussi une question qui me. Que j'ai honnêtement depuis plusieurs années par rapport à toi, c'est qu'est-ce qui te motive, toi? Dans tout ça, là, dans ta vie personnelle, d'aller faire de l'émission en Ukraine, de développer, créer une entreprise qui va à contre-courant de tout ce qu'on connaît comme modèle d'affaires, d'y aller avec un système co collaboratif où tout le monde fait confiance. Il faut qu'il y ait une motivation. C'est quoi la motivation de Richard Kelly?
Pour moi, c'est simplement de voir quelqu'un grandir, quelqu'un briller, un sourire de fierté. C'est important pour moi. Et j'adore m'entourer ces gens-là.
Ouais, puis tu les attires de plus en plus là aujourd'hui, puis justement là-dessus, peut-être on peut terminer là-dessus. Ceux qui seraient intéressés non seulement d'acheter un voyage chez vous, bon, on va sur voyageaquatera.com ou Google voyageaquatera, ça va se faire rapidement, facilement. Mais pour ceux qui auraient peut-être justement pas réfléchi ou pensé une seule fois de peut-être créer sa propre petite agence externe, d'être agent associé avec vous, est-ce qu'il y a une manière d'entrer en contact avec vous pour évaluer cette possibilité-là?
Ah, tout à fait. Ils ont juste allé sur notre site web, une belle page qui est bien documentée.
Pour
Ils ont juste
ça.
à remplir un formulaire et communiquer avec nous. On va les rappeler avec plaisir. Au pire, si tu les envoies sur ma page Facebook, ça va me faire un plaisir de les orienter, là.
En tout cas, écoute, moi, ça m'a fait plaisir que tu aies accepté de faire ça aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas quelque chose que tu aimes, que tu fais, de te mettre à l'avant-plan, encore moins une entrevue de quoi, presque 1 heure ou quoi que ce soit. Tu es un humain extraordinaire. Je suis tellement content que tu aies pu passer dans ma vie et que tu puisses l'être encore là aujourd'hui, non seulement pour moi, mais pour plus de milliers d'autres personnes. T'es un modèle, tu n'as même pas besoin de rien dire, on fait juste essayer de faire un petit peu de ce que tu fais, d'être un petit peu de ce que tu es, puis déjà on est grandi. Un gros merci, je t'aime, mon Richard Kelly, puis à la
Ah,
prochaine, c'est pas fini.
merci à toi, c'est réciproque, je
Salut.
t'aime aussi. Bye
Salut.
bye.
Bye.